Vous êtes sur RTL.
Place à RTL Soir avec Marion Calé et Julien Cellier. Bonsoir les amis.
Bonsoir Céline.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes ensemble pour deux heures d'actu avec à la une un devoir d'humanité, mais à titre exceptionnel.
La France accueillera demain à Toulon l'Ocean Viking, bateau à bord duquel des naufragés migrants ont été secourus. Mais le gouvernement se fâche avec l'Italie et se retrouve sous la pression du RN.
À la une également, Marion.
RTL, vous le révélez à la mi-journée, un prêtre mis en examen et écroué. Il est accusé d'avoir drogué et violé un ado de 15 ans la semaine dernière. Et puis la route du Rhum, 5 abandons et des skippers qui retournent à terre, à l'image de l'un des favoris victimes d'une avarie, Armel Lecléache.
À suivre aussi le fil rouge de RTL Soir. Une de nos reporters tente de rentrer chez elle en banlieue parisienne. Il faut traverser la capitale en pleine grève. On lui souhaite déjà bon courage. Les dessous de l'actu, plan blanc à l'hôpital face à la bronchiolite. On fait de la place, on décale des opérations. RTL a rencontré la maman d'un bébé en danger, gravement malade du foie, dont l'intervention est tout de même reportée faute de bras. 18h15, une star de la chanson française invitée, Juliette Armanet, réédite son album disque de platine avec 5 nouveaux titres. Comment vit-elle ce succès fou? On va lui poser la question avec Steven Bellery. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Signy et Tutti Quanti. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, on profite du salon du Made in France pour vous parler de la France qui gagne. Vous allez découvrir qu'il n'y a pas que dans le luxe et le vin qu'on produit des choses que le monde entier nous envie et surtout nous achète. Au menu également, Benoît Paire qui craque encore. Et attention, ça va secouer. Oui, on vous emmène en bateau sur la route du Rhum avec un vrai marin qui n'est pas tombé à terre.
Avec un vrai marin, le carnet de bord de Maxime Sorel que l'on va suivre pendant toute la course. 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et de Marie Mollet. Et puis le temps très régulièrement avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain?
Du beau soleil après dissipation des grisailles matinales.
Vous n'avez plus l'habitude de le dire, c'est pour c'est ça. À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et c'est donc une info que RTL vous révélait à la mi-journée. La mise en examen d'un prêtre accusé d'avoir violé, drogué un adolescent de 15 ans la semaine dernière à Paris.
Bonsoir Maxime Lévy.
Bonsoir.
Ce prêtre qui s'occupe d'une petite paroisse dans la région de Rennes avait donné rendez-vous au jeune homme via une application de rencontre.
Oui, via l'application Grindr, une plateforme de rencontres homosexuelles. Le jeune adolescent et le prêtre de 52 ans se retrouvent à Paris, se posent pour boire un verre avant de monter dans un hôtel 4 étoiles du 8e arrondissement de Paris. Une fois dans la chambre, l'adolescent se voit proposer plusieurs drogues, de la MDMA mais également du GBL dilué dans un verre d'eau, une drogue de synthèse dérivée du GHB. L'adolescent raconte qu'il est conscient mais comme plongé dans un épais brouillard. C'est dans ce contexte qu'ils ont tous les deux des relations sexuelles non protégées. Le jeune garçon finit par appeler des amis qui le géolocalisent grâce à son portable et préviennent les secours. Le suspect, lui, est arrêté au sein même de l'hôtel quelques heures plus tard. L'enquête confiée à la PJ parisienne est menée par la brigade de la protection des mineurs.
Alors, le prêtre reconnaît ses relations sexuelles non protégées alors même qu'il indique aux enquêteurs être séropositif.
Oui, tout en reconnaissant ses relations sexuelles non protégées, il est bien conscient de sa propre situation médicale, vous l'avez dit, d'être porteur du VIH. Aux enquêteurs, il explique qu'il se rend régulièrement à Paris pour suivre une trithérapie. Selon lui, son traitement le rendrait non contagieux. En audition, le prêtre explique que ses déplacements dans la capitale sont aussi pour lui le moment de rencontrer de nombreux hommes. Selon ses mots, il lui arrive même d'enchaîner plusieurs coups dans la même journée. En audition, il ne semble pas se rendre compte et assume ses pratiques sexuelles régulières sans préservatif. Il assure par ailleurs qu'il ignorait l'âge du jeune homme qui indiquait être majeur sur l'application sans s'être posé plus de questions. Le curé breton a donc été mis en examen, entre autres, pour viol aggravé sur un mineur de 15 ans et placé en détention provisoire.
Et ces révélations, Maxime, évidemment, elles ont beaucoup choqué dans le diocèse de Rennes.
Oui, le suspect officie dans une petite paroisse de la région. L'évêque de Rennes, donc Monseigneur Pierre Dornella, a rapidement exprimé son émotion dans un communiqué. « Je partage la douleur, la colère et la stupéfaction des fidèles », peut-on y lire, tout en assurant partager sa compassion et son soutien à ce jeune homme de 15 ans.
Information RTL signée Maxime Lévy.
RTL Soir.
L'autre grand titre de l'actualité ce soir, ce sont les tensions entre Paris et Rome au sujet de l'accueil de l'Ocean Viking.
Ce navire humanitaire de l'ONG SOS Méditerranée avec quelques 230 migrants à son bord que l'Italie a refusé d'accueillir. Après plus de 15 jours en mer, la France lui ouvre donc le port de Toulon, comme l'a annoncé à la mi-journée le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de pallier au comportement inacceptable du gouvernement italien et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon. Il devrait y arriver ce vendredi 11 novembre en début de matinée.
Toulon, où vous êtes pour RTL, Hugo Hamelin, bonsoir.
Bonsoir.
Arrivé donc au port militaire prévu demain matin.
Exactement, dans la base navale, un lieu aux accès très restreints, à l'abri des regards, choisi également par le gouvernement, nous glissons pour le sentiment d'autorité qu'il inspire. Ce sont des raisons très secondaires pour l'équipage de l'Ocean Viking qui attendait depuis près de 3 semaines qu'un port soit officiellement désigné pour accueillir les 230 réfugiés qui sont à bord. Le sentiment est contrasté pour Sophie Beau, la directrice de l'ONG SOS Méditerranée.
Débarquer après 3 semaines d'attente, très loin de la zone d'opération en Méditerranée centrale, ça montre que les États européens sont incapables de mettre en place des mécanismes et de respecter ce qui est prévu par le droit maritime. Les atermoiements dans la désignation d'un port et toute cette séquence désastreuse à laquelle nous avons été confrontés, c'est vraiment quelque chose d'inédit et que nous regrettons énormément.
C'est Malte à l'origine qui aurait dû accueillir ce bateau, puis l'Italie et enfin la France, des migrants qui vont devoir passer toute une batterie de tests et d'entretiens avant de rester sur la base militaire de Toulon en attendant un logement plus durable.
Oui, justement, est-ce qu'on sait déjà comment ça va se passer à leur arrivée sur place, Hugo ?
Ouais, le programme est assez précis. Dès l'arrivée, un scan de sécurité pour tenter de repérer des personnes qui seraient déjà fichées par les autorités, puis une visite médicale. Ensuite, à l'issue d'un entretien, une demande d'asile pour tous ceux qui y seront éligibles et pour les autres, la délivrance immédiate d'une obligation de quitter le territoire. Ils vont être logés sur place, sur la base militaire. Un tiers de ces réfugiés vont ensuite être répartis en France, un tiers en Allemagne et les négociations se poursuivent au niveau européen pour savoir où le dernier tiers de ces 230 réfugiés elle sera accueillie.
Alors, accueil de l'Ocean Viking à Toulon, devoir d'humanité, disait Gérald Darmanin un petit peu plus tôt aujourd'hui, qui a aussi souligné, Marie-Bénédicte Allaire, et surtout souligné que c'était une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle.
Oui, exceptionnelle. C'est effectivement le mot martelé par Gérald Darmanin. Il s'agit de faire passer ce message à l'opinion. L'accueil de l'Ocean Viking ne créera pas de précédent. Il répond à une situation humanitaire d'urgence, mais seule une partie de ses passagers, notamment les malades et les enfants, pourra rester en France. L'Allemagne s'est engagée à en accueillir d'autres, et sans doute d'autres pays européens. Mais les personnes qui ne répondront pas au droit au séjour et à l'asile seront éloignées sans délai, dit le ministre. Ce qui n'a pas empêché Marine Le Pen ou les LR Éric Ciotti ou Bruno Retailleau de dénoncer le laxisme du gouvernement.
Et le gouvernement qui a aussi haussé le ton contre l'Italie, hein, Marie-Bénédicte.
Oui, Gérald Darmanin pointe le comportement inacceptable du gouvernement Meloni. Il sera perdant, dit-il, car par mesure de rétorsion, la France suspend l'accueil de 3500 migrants arrivés par l'Italie qui était prévu dans le cadre de la solidarité européenne. Et elle renforce ses contrôles aux frontières. La France en appelle à une réponse européenne pour mettre Rome face à ses responsabilités.
Marie-Bénédicte Allaire, merci. Peu de manifestants dans les rues, mais une grosse pagaille dans les transports en commun franciliens avec la grève initiée par l'ensemble des syndicats du groupe. Et ce soir, RTL vous accompagne sur la route du retour.
Avec un fil rouge, nous avons désigné de manière totalement arbitraire Lucie Rispal ce soir pour ce fil rouge. Vous venez de quitter, Lucie, les locaux de la radio pour rentrer chez vous. Dans le Val-de-Marne, alors en gros, vous allez traverser Paris d'ouest en est, de Neuilly-sur-Seine à Fontenay-sous-Bois.
Oui, pour rentrer à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne, je suis censée mettre 40 minutes environ selon mon application GPS. Fontenay-sous-Bois, vous l'avez dit, c'est totalement à l'est de notre rédaction d'RTL. Je dois donc d'abord prendre la ligne 1 du métro, station Les Sablons. La ligne est semi-automatique et ne devrait donc pas me poser de soucis puisqu'elle circule tout à fait normalement. Sur les quais, pas de cohue, tout va bien donc, mais ça pourrait se corser en arrivant à la station Charles de Gaulle-Étoile car je vais devoir prendre le RER A vers Boissy-Saint-Léger. Qui a posé problème toute la journée.
Bon, on va vous suivre en tout cas pendant toute l'émission, Lucie. Bon courage.
Oui, et bon courage aussi si vous êtes sur les routes. Hein, beaucoup plus de trafic qu'à l'habitude, quasiment deux fois plus de bouchons. 527 km de bouchons à l'heure actuelle.
Allez, petite pause et dans un instant dans ce journal sur RTL, les lobbies du pétrole très 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 présents à la COP27 en Égypte et puis Armel Lecléache qui doit rentrer au port à cause d'une avarie sur la route du Rhum.
Julien Cellier,
RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL. RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais.
18h11, la suite de votre journal dans RTL Soir avec ce paradoxe dénoncé aujourd'hui par les ONG. Les lobbyistes des énergies fossiles ont envahi la COP27 en Égypte.
Virginie Garin, les ONG ont fait les comptes. Hein, les lobbyistes des secteurs pétroliers et gaziers sont plus nombreux qu'ils ne l'ont jamais été dans une conférence pour le climat.
Oui, et c'est frappant. On croise dans les couloirs de la conférence de nombreuses djellabas blanches, des représentants des pays pétroliers, délégués des gouvernements, des pays du Golfe ou des Russes. Ils sont 25% de plus que lors de la dernière COP. Clément Sénéchal de Greenpeace France.
Avec plus de 600 personnes sur place, c'est plus que les délégations nationales réunies des 10 pays les plus impactés par le réchauffement climatique. Ils sont là pourquoi ? Eh bien pour polluer les discussions, pour faire dérailler les négociations.
Alors, l'Arabie Saoudite a l'un des plus grands stands à la COP27. Son prince Bin Salman est même venu présenter l'initiative Moyen-Orient vert.
Nous allons planter 50 milliards d'arbres dans la région du Moyen-Orient. Ce sera le plus grand projet de reforestation jamais réalisé sur la planète.
Alors, en fait, les défenseurs du pétrole viennent essayer de convaincre qu'on peut très bien continuer avec le pétrole si on développe en même temps des mesures qui capturent le carbone, comme planter des arbres. Et ce n'est pas bon signe pour la future COP28 qui aura lieu l'an prochain aux Émirats Arabes Unis.
Virginie Garin qui revient tout juste de cette COP27 donc à Sharm el-Cheikh. Et puis à 10 jours du Mondial au Qatar, cette décision de la FIFA qui risque de faire beaucoup parler. Après la lettre envoyée aux sélections pour leur demander de se concentrer uniquement sur le football, la Fédération internationale a interdit aujourd'hui à l'équipe du Danemark de s'entraîner avec des maillots pro-droits humains. Les débuts mouvementés de la route du Rhum, 5 abandons et des marins obligés de retourner à terre. D'ailleurs, cet après-midi, Isabelle Langer, c'est l'un des favoris de la catégorie reine qui a connu une avarie.
Oui, en fin de matinée, Armel Lecléache a entendu un craquement sous le fond de coque de son voilier alors qu'il était à une dizaine d'heures de navigation des côtes bretonnes. La dérive de son ultime maxi-banque populaire est cassée. Décision a été prise de faire rentrer le vainqueur du Vendée Globe 2016-2017 sur l'Orient. Ronan Lucas est le directeur de son équipe.
Il devrait arriver avant minuit sur zone. Et dès lors, on examinera le bateau pour voir s'il n'y a pas d'éventuels impacts sur la coque du bateau et si on peut reprendre sereinement la mer vers la Guadeloupe.
En espérant effectivement qu'il n'y ait pas plus de casques que prévu, Armel Lecléache faisait partie du trio de tête au moment de son avarie. En 2018 déjà, lors de la précédente route du Rhum, il avait abandonné au bout de 2 jours de course après avoir chaviré.
Isabelle Langer, merci.
Merci Isabelle, merci Marion, à tout à l'heure. Le temps demain, Peggy.
Même type de temps qu'aujourd'hui, un temps sec et ensoleillé après dissipation des bandes brouillards et grisailles matinales. Même si localement il peut rester quelques grisailles, mais ce sera vraiment très localisé, sauf sur le Languedoc où là on a des entrées maritimes, donc du coup des nuages et quelques pluies tout au long de la journée. Partout ailleurs, donc du soleil avec des températures qui sont douces encore pour la saison, sauf le matin on est souvent sous les 10 degrés, mais l'après-midi de 11 à 15 degrés au nord et de 19 à 23 au sud.
Merci Peggy. Toute petite pause et puis dans RTL Soir, une star de la chanson française sera notre invitée. Juliette Armanet offre au public 5 nouveaux titres et ils sont magnifiques. Son album déjà disque de platine est réédité pour notre plus grand bonheur. On va en discuter avec elle dans un instant. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir.
Julien Cellier.
Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée avec RTL Soir et avec Steven Bellery, maintenant notre spécialiste musique. Bonsoir Steven.
Bonsoir à tous.
Nous accueillons une star de la chanson française. Invité dans RTL Soir et Juliette Armanet. Bonsoir Juliette Armanet.
Bonsoir.
Bonsoir. Merci d'être avec nous en pleine tournée et au moment où sort Brûler le feu 2, la réédition de votre album avec 5 nouvelles chansons, on va en parler. Brûler le feu 1 a cartonné, disque de platine, ça devient même carrément un blockbuster, on peut le dire, non?
C'est en tout cas ma vie est un blockbuster. Alors en ce moment, c'est clairement j'ai une vie très très intense. C'est drôle, c'est charmant, c'est génial carrément.
Ce petit numéro 2 rajouté, c'est un petit côté ironique, c'est un clin d'œil, c'est quoi?
C'est exactement ça, c'est une ironie, c'est on est tous habitués maintenant à regarder des saisons 1, des saisons 2. Voilà, c'est une saison 2. C'est un clin d'œil aussi parce que c'est vraiment 5 nouveaux titres. Donc c'est quand même une moitié d'album, c'est conséquent, 5 vrais nouveaux titres.
Oui, il y a pas de tromperie sur la marchandise.
Bon, en tout cas, j'ai mis beaucoup de cœur à faire ces 5 nouveaux titres pour qu'ils soient à la hauteur du reste de l'album, qu'ils soient à la hauteur de l'accueil que le public fait à ce disque et aux tournées. Donc voilà, c'est Brûler le feu 2, le retour.
Et ces chansons sont liées, elles étaient entamés au moment où vous prépariez l'album et vous les avez peaufinés, terminés sur la route ces derniers mois.
Exactement, ouais, c'était des chansons qui étaient complètement dans les tuyaux. Certaines, j'étais un peu triste de ne pas pouvoir les mettre dans l'album 1. Ouais. Et voilà, et le fait d'avoir pu faire toutes ces dates de tournée, d'avoir eu aussi la confiance que m'a donné l'accueil de ce public, ça m'a permis de pouvoir les terminer. Pour certaines, parfois, il manquait juste un mot, une phrase, mais un mot, une phrase, c'est beaucoup dans une chanson. Et pour d'autres, il manquait des arrangements, j'avais pas encore la formule magique, quoi. Et voilà, et là j'ai trouvé, et puis c'est, voilà, il y a une alternance entre des titres assez dansants, des ballades, il y a aussi des piano-voix qui me tiennent vachement à cœur. Voilà, alors, ils sont à vous.
Parlant de piano-voix, parce que ces titres, ils viennent compléter l'épopée amoureuse de l'album, il y a notamment, moi j'adore, ce très joli titre que je sifflote depuis quelques jours, Michel.
Depuis que t'es parti, je suis collé dans mon lit, mon vieux pyjama à bouffer des conneries. C'est pas beau à voir. Michel, depuis que t'es enfui, je cherche des rimes en elle. Mais tout ce que ça me fait, c'est juste que ça me rappelle que je ne pense qu'à toi.
C'est qui Michel?
Michel, en fait, c'est un ami, Michel. Un ami, Michel. Non, c'est un ami avec, qui m'appelait lui aussi Michel. On était les Michel. Et donc, c'est un ami que je ne vois plus. Et donc, pour plein de raisons, la vie, parfois, sépare les gens qui s'aiment, hein, n'est-ce pas? Et c'est une chanson pour lui dire que je pense encore à lui et que c'est toujours forever mon Michel.
Michel, rien que de dire ton nom, déjà, ça me donne des ailes. Te fous pas de ma gueule, y'a dans ce petit nom-là.
Il vous a appelé, Michel, depuis la sortie du disque?
Non, mais j'espère qu'il a entendu. Pas encore. À la fin de la chanson, il y a...
Michel, si tu nous écoutes.
Voilà. Les paroles disent, si t'entends ma voix, fais-moi une étincelle, un signe de la main, une hirondelle. Dis-moi que tu m'oublies pas. Voilà. Parfois, on s'exprime mieux en chanson que dans la vie. On a du mal à dire certaines choses par pudeur. Et moi, les chansons m'aident à pouvoir formuler des choses que je parviens pas à dire dans la vie ordinaire.
Sur votre premier album, Petit Ami, il y avait Alexandre.
Oui.
Et vous vous étiez amusé pendant toute la tournée après à faire monter à vos côtés, à côté de votre piano,
un
Alexandre.
Temps, ouais.
Vous allez faire monter des Michel maintenant ?
Je ne sais pas, parce que comme il y avait cette saveur très particulière avec Alexandre, je ne suis pas sûre de vouloir comme ça refaire. Non, et puis en plus, ce n'est pas vraiment pareil, parce que ce n'est pas du tout la même histoire. La chanson vient vraiment d'ailleurs, donc on verra. Bon, s'il y a des Michel, ils viendront. Évidemment, je ne dirai jamais non à un petit Michel.
Vous nous avez dit tout à l'heure, ma vie en ce moment, c'est un blockbuster. C'est vrai qu'on a entendu au tout début de l'interview ce tube complètement dingue, le dernier jour du disco, 30 millions d'écoutes en streaming. Il est en train de vous échapper, non ? Ce tube, il appartient au grand public désormais. Mais Steven me disait que vous étiez visiblement tombé dans le métro sur quelqu'un qui fredonnait la chanson en regardant votre compte Instagram.
Ouais. Oui, c'est vrai, c'était une scène de dingue. J'arrive dans le métro et puis je m'assieds à côté d'une dame qui fredonnait le dernier jour du disco en regardant mon Instagram. Et du coup, je me retourne, je la regarde, je dis bah coucou. Et je pense qu'elle a, je sais pas, je me suis dit merde, d'avoir une crise cardiaque, il va y avoir un truc qui va mal se passer. Je pense qu'elle a eu du. C'était une scène un peu surréaliste. Et puis, voilà. Et c'est vrai que, comme vous le dites, c'est une chanson qui m'échappe, mais alors ça, c'est le plus grand des bonheurs.
C'est ça, une chanson réussie, quelque part.
Exactement, c'est une chanson qui s'envole, c'est une chanson qui vit sans qu'on ait besoin de mouliner à fond pour qu'elle vive. Et c'est, voilà, c'est une chanson qui reste dans le cœur des gens. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui, forcément, peut-être ne me connaissent même pas mon visage ou ne connaissent pas mon projet. Et du coup, la chanson a sa vie propre, elle est libre.
Mais en parlant du public, Juliette Armanet, vous êtes en lice pour l'album RTL de l'année 2022.
Oui.
Vous faites partie des 12 candidats pour le moment. Ça vous touche, ça vous aime?
Énormément, bien sûr, ça me touche énormément. Je suis. Enfin, j'aime pas trop les trucs de compétition parce que je trouve que c'est toujours un petit peu difficile. Puis on a tous et toutes, dans les artistes sélectionnés, des genres très différents et puis des affinités sans doute très différentes avec le public. Mais oui, ça me touche énormément de me dire que cet album a une vraie vie, qu'il a marqué le public et notamment le public d'RTL. C'est trop bien.
Comment vous gérez le succès? Comment vous l'appréhendez? Est-ce que vous avez l'impression de rester la même ou est-ce que ça, bah, ça change un peu la personnalité peut-être? Ça fragilise?
Ouais, ça fragilise bien sûr parce qu'il y a beaucoup de demandes, qu'il faut être ouvert, il faut garder la ferveur, il faut garder l'innocence aussi, ça c'est très important. Et l'intimité. Je ne parle pas de la vie privée, hein, je parle de l'intimité dans la musique. Rester bien connecté à sa musique, à ce qu'on a à dire, à ce qu'on a à donner. Là, je vais commencer ma tournée des Zéniths et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de me concentrer. C'est des moments que j'attends depuis extrêmement longtemps et je veux qu'ils restent des moments très intimes avec mon public, très privilégiés.
Certains l'ignorent peut-être, vous avez débuté votre carrière professionnelle, Juliette, comme journaliste, absolument, documentariste. Vous avez donc passé pendant près de 10 ans votre temps à regarder les autres, être à votre tour scruté, regarder, ça peut donner le tournis parfois.
Oui, ça donne le tournis, bien sûr. Bien sûr, et puis moi je ne suis pas forcément en fait pour ça. Moi je suis trop contente que la musique que je délivre et que je partage ait une si belle vie, je suis trop contente de pouvoir faire ce Zénith, ce Bercy qui arrive. Mais c'est vrai que parfois tous les regards, ça peut être, on n'est pas tout prêt à vivre forcément quelque chose comme ça. Mais en même temps, je l'ai bien cherché et je le voulais. Donc je me réjouis de ce qui se passe. Pour avoir vécu déjà les après-tournées, on regarde les photos en se disant « Oh là là, c'était génial !» On est tout seul avec son paquet de chips sur son canapé. Je pense qu'il faut quand même prendre les choses comme elles viennent en se disant « Il y a des inconvénients, il y a parfois beaucoup de pression, il y a beaucoup de fatigue. » Mais en même temps, ces moments-là, ils sont tellement dingues. C'est une telle chance de les vivre que vas-y, profites-en quoi, à fond.
Alors là, les Zéniths, et puis le point d'orgue de la tournée, ce sera Bercy en mars. Ce sera votre premier Bercy. C'est une salle qui est immense. Mythique. Est-ce qu'elle fait peur, cette salle, ou est-ce qu'on est déjà patient, enthousiaste?
Elle fait peur, mais justement, c'est bien de travailler là-dessus. C'est gigantesque. Donc, comment on travaille sur le gigantesque? Ouais. Comment on arrive? Moi, je suis une fan d'opéra. J'aime le gigantisme. J'aime la démesure. J'aime la folie des grandeurs. C'est l'occasion d'y réfléchir. Puisque j'ai peur, je vais faire encore plus grand. Je vais descendre d'un hélicoptère. Je vais faire des choses qui sont à la fois...
Un hélicoptère à Bercy, c'est pas simple.
Non, oui, c'est vrai. C'est vrai.
Julien Lévy a essayé au Stade de France et il n'a pas pu.
Mais oui, ça fait peur. Et en même temps, on aime ce qui fait peur. C'est le principe des tours de manège.
Vous parlez souvent de métamorphose sur scène. Est-ce que cette combinaison en forme de boule à facettes que vous arborez sur cette nouvelle tournée, elle vous porte, elle vous change? Est-ce que le costume peut vous... donner des ailes?
Ouais, le costume donne des ailes. Moi, j'avais fait des cours de danse classique. Ma prof me disait tout le temps, c'est pas le tutu qui fait la danseuse. Je pense parce qu'elle voulait qu'on travaille. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord. Parfois, c'est le tutu qui fait la danseuse. Et parfois, le costume est un outil extraordinaire de fiction, de métamorphose, de liberté aussi. Et ce costume, il m'a apporté une liberté incroyable que j'avais jamais trouvée jusqu'à maintenant. Donc,
la lumière se réfléchit sur vous et vous devenez une vraie boule à facettes. Pour ceux qui ne vous ont pas encore vu.
Je deviens boule à facettes. Et surtout, tous les miroirs qu'il y a sur ma tenue sont cousus à la main, un par un. Ils réfléchissent la lumière et ça fait comme des rayons laser. C'est comme si toutes les émotions que j'avais intérieurement ressortaient comme ça, comme des rayons de lumière. Et il y a d'ailleurs parfois des gens un peu éblouis au premier rang qui froncent les yeux et tout. Mais c'est un moment, en tout cas, lumineux à plein d'endroits.
Pour terminer, Juliette Armanet, puisqu'on va retrouver Brûler le feu 2 sous beaucoup de sapins à Noël, un petit clin d'œil. On va lancer avec vous officiellement la saison du Maria Carré de Noël. Je dis clin d'œil parce que je crois que vous avez eu, en tout cas plus jeune, une fascination pour Maria Carré, c'est
totalement,
ça?
Totalement, bien sûr. mais je l'ai encore, mais elle est différente. Mais quand même, une interprète extraordinaire qui a des tessitures vocales de l'ordre du génie, enfin du don, quoi.
Oui, ça monte très 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 haut dans les aiguilles.
Et puis le groove, elle avait un truc tellement, elle était solaire, entraînante, drôle. Et puis elle est autrice de plein de chansons, elle était derrière beaucoup de productions, elle est très talenteuse, elle a beaucoup de cordes à son arc. Voilà, non aussi Maria Carré Forever.
Brûler le feu d'eau, en tout cas, c'est un très joli cadeau à glisser sous le sapin. La réédition de votre album est dans les bacs et vous êtes en tournée un petit peu partout en France. Merci Juliette Armanet d'avoir été ce soir notre invitée sur RTL.
Merci,
à très bientôt.
Merci.
Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
Allez, toute petite pause et puis on va retrouver le fil de l'actu dans RTL Soir. On va surtout retrouver notre fil rouge, la reporter RTL qui tente de rentrer chez elle, de traverser Paris en pleine grève RATP. Et puis vos dessous de l'actu, plan blanc à l'hôpital face à la bronchiolite, c'est-à-dire des opérations notamment annulées. On fait de la place. RTL a rencontré une maman dont le bébé est en danger, très malade, mais faute de lit, faute de bras, la chirurgie est décalée. On vous explique tout juste après ça, tout de suite.
Julien Cellier.
RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL, s'informer ensemble.
18h31, bonne fin de journée.
RTL Soir,
Julien Cellier, Marion Calais.
Et RTL Soir vous informe les trois titres de l'actu à retenir, Marion Calais.
L'Ocean Viking, ce navire humanitaire transportant 230 migrants secourus en mer Méditerranée, sera accueilli demain matin au port de Toulon. Signal de laxisme, disent les Républicains et le Rassemblement National. Rien d'autre qu'un devoir d'humanité pour la gauche. Accueil à titre exceptionnel, dit le gouvernement. C'est une information qu'RTL vous révélait à la mi-journée. Un prêtre du diocèse de Rennes, mis en examen et écroué pour viol aggravé sur un adolescent. Et puis, il avait pris du retard dans la lutte contre le Covid. Le laboratoire Sanofi avec son homologue britannique GSK ont vu aujourd'hui leur vaccin de rappel validé par l'Agence européenne du médicament.
Merci Marion. Le temps pour demain, Peggy.
Un ciel globalement ensoleillé après dissipation des grisailles matinales et des bandes brouillards, sauf sur le Languedoc où là on a des entrées maritimes. Donc un ciel gris avec quelques faibles pluies et du vent. Et partout ailleurs, donc du soleil. Quelques brouillards résisteront, quelques plaques ici ou là, mais pas grand chose. On se couvre le matin, on sera souvent sous les 10 degrés sauf près de la Méditerranée, et l'après-midi de 11 à 15 au nord et de 19 à 23 au sud.
Merci Peggy.
RTL Soir
avec Julien Cellier.
Et on va donc retrouver notre fil rouge. Maintenant, dans RTL Soir, une reporter RTL qui tente tout simplement de rentrer chez elle un jour de grève. Lucie Rispal, on vous retrouve. Vous êtes partie de la radio Neuilly-sur-Seine, ouest de Paris, il y a une demi-heure, direction votre maison. Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne, à l'est de la capitale. Vous en êtes tout, dites-nous tout.
Eh bien écoutez, je poursuis désormais mon chemin sur le RER A en direction de Poissy-Saint-Léger. Le RER A, ligne la plus fréquentée d'Europe, et je vous assure que ça se sent actuellement. Il y a pas mal de monde sur le quai et les wagons qui défilent sont bondés. Les passagers ne cessent de regarder le tableau d'affichage, et pour cause, habituellement dans cette direction, les RER arrivent toutes les 7 minutes et là, eh bien il faut attendre plus de 17 minutes. Maintenant mon défi, c'est d'essayer de me frayer une petite place dans le wagon. J'espère que je ne vais pas rester sur le quai.
Bon courage Lucie, on reprend des nouvelles d'ici une demi-heure, à tout à l'heure.
18h, 19h15.
RTL Soir.
18h34.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et les dessous maintenant du plan blanc à l'hôpital et de ses conséquences qui peuvent être, vous allez l'entendre, très graves. Les services sont débordés par la bronchiolite. 7000 bébés admis aux urgences la semaine passée. Pire épidémie depuis 10 ans. Conséquence, le gouvernement ordonne ce plan. Qu'est-ce que ça signifie? On déprogramme, on décale des rendez-vous. Bref, on fait de la place. Bonsoir Agathe Landais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Forcément, il y a des victimes collatérales. Vous avez recueilli un témoignage RTL très fort, celui de Laura, une jeune maman. Son bébé Robin est gravement malade. Sa vie est en danger et pourtant, son intervention, son opération a été décalée.
Oui, ce petit garçon qui fêtera demain ses 4 mois est né avec une grave maladie du foie qui fait qu'il n'arrive pas à évacuer la bile vers ses intestins. L'enfant risque donc une cirrhose potentiellement mortelle. Sa mère, Laura, a dû l'amener en urgence à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne.
Les examens ont été faits très vite, mais après on nous a prévenu que malheureusement l'opération ne pourrait pas se réaliser dans les jours à venir, puisque il y a des enfants en attente, il y a un problème de bloc opératoire, un problème de moyens humains également. Idéalement, il aurait fallu l'opérer dès son arrivée, mais on savait que ça allait prendre un peu plus longtemps. Donc on a ce timing en tête et on se dit un jour de plus, c'est encore un jour de perdu.
Résultat, ce bébé a attendu 13 jours à l'hôpital avant qu'une place ne lui soit trouvée dans un bloc opératoire.
Donc opération retardée, est-ce que ce retard va avoir des conséquences sur la santé du petit Robin?
Alors il est un peu tôt pour le savoir malheureusement. Robin est encore en train de se remettre de cette opération. D'ici un mois, sa mère saura si cette chirurgie a fonctionné ou bien si elle a été faite trop tard et donc que le petit a désormais besoin d'une greffe. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'en temps normal, jamais cet enfant n'aurait patienté autant avant son opération.
Il s'est passé 13 jours. Comme il a été opéré tardivement, bah forcément, les dommages qui ont été faits au foie sont là. Il y a effectivement une incompréhension de se dire « mince, on est en 2022, on est en France, on n'arrive pas à opérer notre fils aussi vite qu'il faudrait l'opérer ». Donc c'est difficile à entendre en tant que parent, mais c'est extrêmement difficile pour les soignants que vous avez en face, qui finalement ne peut plus réellement exercer leur métier dans les conditions les plus optimales possibles.
Et les histoires comme celle-ci vont malheureusement se multiplier encore dans les prochaines semaines. Faute de bras dans les services pédiatriques, c'est une réalité. Les soignants sont obligés de trier les petits patients pour parer aux plus urgents.
Les dessous de ce tri, comme vous dites, des patients, des déprogrammations à l'hôpital, de la crise de l'hôpital aussi, plus largement avec Agathe Landais ce soir pour RTL. C'est extrêmement concret, malheureusement. Merci Agathe.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Allez, on va revenir dans quelques secondes, ce sera plus réjouissant, on va défaire le monde, ouais. L'info autrement avec ceux qui débarquent avec Fracas en studio, Cyprien Sini, Isabelle Choquet et Laurent
Bonjour.
Tessier. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
On va défaire avec vous le Made in France, oui. Dont le salon s'ouvre. Vous allez l'entendre, le savoir-faire bleu, blanc, rouge. Il inonde le monde et pas seulement dans le luxe avec du vin et du fromage. A tout de suite sur RTL.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.